C'est l'heure de Meilleur Espoir. Je reçois un ou une invitée dont je pense qu'elle ou il est une figure montante du cinéma français. Au cours d'un entretien libre, mon meilleur espoir du jour partage avec moi et avec vous tout ce qui permet d'entrouvrir la porte sur sa personnalité et sur ce qui le constitue en tant qu'artiste. Une émission d'Audrey Forestier sur Radio Campus Paris est disponible en podcast sur toutes les plateformes dédiées.
Le César de la meilleure espoir féminine.
Le César du meilleur espoir féminin.
Une espoir, c'est pas français, c'est un espoir.
Son César du meilleur espoir féminin.
Du meilleur espoir féminin.
Le César du meilleur espoir masculin.
Das meilleur espoir féminin.
Le César du meilleur espoir féminin.
Vous faites le plus beau métier du monde.
J'ai déchiré le papier en deux, ça commence bien.
Chères auditrices et chers auditeurs, l'entretien qui va suivre a malheureusement souffert d'un défaut technique lors de son enregistrement. Malgré tous mes efforts et ceux d'un professionnel du son qui est intervenu pour me prêter main forte, la qualité audio de l'émission n'est pas à la hauteur de ce que j'aurais aimé vous proposer, et j'en suis sincèrement désolée. Néanmoins, l'échange qui va suivre avec cet artiste, qui a bien voulu m'accorder son temps et sa confiance, m'a semblé précieux, et c'est la raison pour laquelle j'ai tout de même tenu à vous le livrer. J'espère pouvoir compter sur votre indulgence, et je vous souhaite à toutes et à tous un bon moment en compagnie de mon meilleur espoir. Mon meilleur espoir est une aventurière. À l'écran, étudiante cannibale, prostituée de luxe, jeune femme enceinte aux abois, footballeuse, elle est protéiforme et semble nous dire que la prise de risque ne l'effraie pas. Fan de David Lynch, de Wong Kar-wai ou de Valeria Bruni Tedeschi, entre autres, elle admet aussi une sincère curiosité pour l'univers du blockbuster à la Marvel, par exemple. Mon meilleur espoir aime son métier et son métier le lui rend bien, comme en témoigne d'ailleurs sa nomination au César du meilleur espoir féminin en 2018. À chaque fois que je pense à elle, je pense à un animal. Je ne vais pas vous mentir, dans la vie, on se connaît. Et je lui ai toujours donné des noms d'animaux. Mais je ne crois pas que ce soit seulement une coquetterie affectueuse. Chez mon meilleur espoir, il y a vraiment quelque chose qui relève du marsupilami effrayé qu'on a envie d'apprivoiser, de la panthère prête à bondir quand on l'énerve, et de la vieille autruche à qui on ne la fait pas et qui ira se terrer si le monde l'insupporte. J'ai lu qu'elle avait longtemps étudié les percussions. Ce n'est pas si anecdotique quand on perçoit à quel point elle sait prendre le pouls de son époque. À quel point sa partition est sûre. Être révélée par le cinéma de genre, par un film qu'elle n'aurait sûrement jamais vu si elle n'avait pas joué dedans. Incarner une légende du foot dans le très attendu film de Virginie Verrier. Porter sur scène des textes de Mona Chollet, ceux de son best-seller Sorcière. C'est bien qu'elle a du flair, non? C'est bien qu'elle a compris que le cinéma de demain serait féministe ou ne serait pas. Mon meilleur espoir est le nouveau visage de la modernité et elle s'appelle Garance Marillier. Salut Garance.
Salut Audrey. trop bien.
Avoue que t'as kiffé le marsupilami.
Ouais, j'ai kiffé, ça me parle beaucoup.
Alors moi j'ai une première question à te poser qui est pas du tout intelligente.
Ok.
Mais je me pose la question depuis que je te connais, depuis que je sais que t'as étudié les percussions.
Ok.
Qu'est-ce que c'est en fait ?
Les percussions.
Ouais, je te jure. Je me suis toujours imaginé que tu étais en train de faire de la batterie.
Ouais, mais c'est ce que les gens pensent souvent. Mais en fait, c'est moins sexy que ça. C'est plus... je faisais le triangle à l'orchestre pendant... Et ouais. C'est plus ça. Non, mais en fait, moi, je faisais des percussions classiques. Donc, c'est toutes les percussions d'orchestre. Donc, les timbales, la caisse claire, le vibraphone, le marimba, le triangle... Et qui est très sous-coté, parce qu'en vrai, un triangle, si tu joues mal, on n'entend que toi. Et voilà, et en fait, c'est des percussions qui peuvent pas vraiment se jouer seules, enfin, vu que c'est des percussions d'orchestre. Et c'est la formation classique qu'il y a dans tous les conservatoires.
Qu'est-ce que t'en as gardé de ça?
J'en ai gardé, c'était... En fait, mon père est musicien, il est percussionniste et multi-instrumentiste. Et mon frère, il est aussi percussionniste. Et du coup, j'ai toujours grandi là-dedans. Et quand j'étais petite, je voulais faire du trombone, sauf que j'avais des bagues, donc ça me faisait trop mal à la bouche. Donc j'ai dit, bon, d'accord, je vais faire de la percussion, comme mon frère et mon père. Et j'en ai fait pendant 10 ans. C'était très... Enfin, j'ai adoré, j'adore la musique, c'est vraiment une de mes passions. Mais en même temps, c'est hyper douloureux parce que c'est vraiment la rigueur, mais la plus extrême que je connaisse. Parce que, en fait, c'est de la répétition jusqu'à ce que tu y arrives. Mais le moment pour y arriver, c'est qu'il faut travailler tous les jours. S'il y a un jour où tu travailles pas, le lendemain sera moins bien que la veille, quoi. Et du coup, j'ai fait ça pendant 10 ans.
Donc, de quel âge à quel âge?
Bah, de mes 6 ans à, je sais pas, mes 18 ans. Mais après, c'est... qu'est-ce que j'en garde? Bah, c'est le... Je sais pas, le sens du rythme, quoi. Maintenant, je le sens beaucoup plus quand il y a du rythme, quand il y a des temps morts, même la musicalité, je pense que ça, en fait, ça a juste développé mon acuité à ça, quoi.
Ça te manque ?
Ça me manque. Parfois, ça me manque, mais en même temps, il y a pas longtemps, il y a genre 2 ans, j'ai dû jouer le rôle d'une batteuse, et du coup, j'ai dû reprendre la batterie, et j'étais en mode, oh putain, je sais pourquoi j'ai arrêté, quoi. C'est horrible, genre. C'est tellement frustrant. Moi, je me souviens des scènes où j'étais avec mon père parce qu'il me faisait réviser et je pleurais parce que j'arrivais pas, quoi. C'est comme si là, t'as une tasse devant toi et que tu dis « Oh, t'as vu le vase ?» alors que tu sais que ça s'appelle une tasse et tu l'appelles quand même le vase. C'est ce genre de frustration. T'es en mode « Mais pourquoi je dis pas le bon mot ?»
Ah ouais.
Pourquoi je fais pas le bon rythme ? Pourquoi je fais pas la bonne note au bon moment ? Et il y a ça en jeu, bien sûr, mais c'est quand même... Je sais pas, c'est plus movible. Je sais pas comment
expliquer. Tes parents, ils avaient misé un peu là-dessus, ils te mettaient la pression ou c'est toi toute seule ?
Non, mes parents, ils m'ont jamais mis la pression. Ils m'ont mis un peu la pression pour faire des études en horaire aménagé. Et du coup, ça devait passer par un apprentissage artistique ou sportif, mais j'étais pas du tout sportive. Et du coup, j'ai fait de la musique à haut niveau, entre guillemets, pour pouvoir intégrer un cursus scolaire d'horaire aménagé. Parce que je pense que j'aurais jamais pu survivre dans un système normal, quoi. Mmh. En avoir cours toute la journée, moi, j'ai des gros problèmes de concentration et me concentrer de 8h à 18h, c'était genre impossible, c'était une catastrophe.
Mais t'étais bonne élève ?
J'étais très mauvaise élève. Genre, à partir du CP, mon prof, il attendait tous les jours ma mère à la sortie en mode « Il faut qu'on parle de votre fille. » Parce que j'avais trop de problèmes. J'étais trop dissipée, quoi. En fait, je m'ennuyais hyper vite. Du coup, j'étais déconcentrée et je déconcentrais les autres.
Est-ce que t'étais insolente ?
J'étais très, très insolente.
J'en étais sûre.
Et en même temps, j'avais beaucoup de fierté. Du coup, dès que je faisais des bêtises, j'étais en mode « C'est moi qui ai fait la bêtise. » Et du coup... À la fois, les profs, ils étaient en mode, c'est bien, tu l'avoues. Et en même temps, il fallait qu'ils me grondent. Et du coup, j'avais un rapport, soit les profs m'adoraient, soit ils me détestaient. C'était, il n'y avait pas d'entre-deux. Ou...
Garance, c'est toi qui choisis l'univers musical de cette émission. Est-ce que tu veux bien nous dire ce qu'on va écouter et éventuellement commenter tes choix ?
Du coup, les musiques, on va commencer par... le son Deezer de mon ami Chila. Et du coup, c'est une de mes meilleures amies. Et ça fait partie de son deuxième album, là, qui vient de sortir, qu'il faut aller streamer, qui s'appelle Ego. Voilà, je suis trop contente de comment elle évolue dans la musique. Et je pense que c'est quelqu'un de précieux dans l'univers du rap et de la musique en général en France. Voilà. Ensuite, on a ma chanson préférée au monde qui s'appelle Sparring Partner de Paolo Conte. Et c'est une trop belle chanson italienne. J'adore les chansons italiennes. Et c'est une chanson qui me transporte. Ensuite, nous avons du David Bowie avec Heroes. Et c'est une chanson que j'écoute tout le temps quand je suis en scooter et qui me donne envie de refaire le monde. Et ensuite, on a une chanson de Brent Fayaz qui s'appelle Dead Man Walking. Et c'est un mec que j'aime trop. Et j'aime trop ses prods et je le trouve trop fort. Et voilà.
Super.
J'ai pété ma tête pendant 10 heures, coupé mon tel depuis 10 heures. Rien que mes potos m'appellent, mais là j'ai les nerfs, le cache dans le viseur. Pété ma tête pendant 10 heures, coupé mon tel depuis 10 heures. Rien que mes potos m'appellent, mais là j'ai les nerfs, le cache dans le viseur. J'ai mis de côté les traites, les putains, les cons, au centre mon ego. J'ai jamais remis les chaînes, j'ai rempli des chèques, le compte reste à zéro. C'est mieux pour toi que je me taise, même si j'ai mes torts, ben j'ai mes raisons. Ne crois pas que ta vie est terne, y'a que leur filtre qui brise sur les réseaux. Mais j'ai pété ma tête pendant 10 heures, ouais j'ai le seum depuis 10 heures. J'sais que j'vaux mieux que la maille, mais là c'est la merde, j'me sens comme un dealer. J'ai pété ma tête pendant 10 heures, ouais j'ai le seum depuis 10 heures. J'sais que j'vaux mieux que la maille, mais là c'est la merde, j'me sens comme un dealer. J'ai pété ma tête pendant 10 heures, coupé mon tel depuis 10 heures. Rien que mes potos m'appellent, mais là j'ai les nerfs, le cache dans le viseur. Pété ma tête pendant 10 heures, coupé mon tel depuis 10 heures. Rien que mes potos m'appellent, mais là j'ai les nerfs, le cache dans le viseur. Pété ma tête pendant 10 heures, 10 heures. Ce matin je me sens comme un dealer, dealer. Pété ma tête pendant 10 heures, 10 heures. Ce matin je me sens comme un dealer, dealer. J'ride en Paris depuis 4 ans, j'ai compris leur vie, c'est leur raison de vivre, ouais. Leur réussite, c'est que l'argent, les michetos, la gueule, drôle, les chopes et la tise, ouais. Ça fait des mois que j'ai pas capté la madrée, mes potes, ma province et ma mif, ouais. Tous les matins, j'ai la confiance, la nuit tombée, défile les dos de ma vie, ouais. Angoissée, j'ai tapé des cris, tapé le mur, des cris des pavés. Aucun bruit ne sort de mes cris, mais j'ai mis des buts, le match est pas gagné. J'me répète, faut prendre des risques et payer le prix, même si je dois rater. Maman, te fais pas de piles, ta fille est habile, cherche à te gâter. Mais j'ai pété ma tête pendant 10 heures, ouais, j'ai le seum depuis 10 heures. Ramener un max de bif, car là c'est la merde, j'me sens comme un dealer. Pété ma tête pendant 10 heures, ouais j'ai le seum depuis 10 heures. Ramener un max de bif, car là c'est la merde, j'me sens comme un dealer. Pété ma tête pendant 10 heures, 10 heures. J'me sens solo comme dans le désert, 10 heures. Pété ma tête pendant 10 heures, 10 heures. J'me sens solo comme dans le désert.
Meilleur espoir, un vendredi sur 4 à 20h sur Radio Campus Paris.
Et comment la bascule s'est faite alors sur le jeu, sur le plateau ?
Écoute, le jeu, il s'est fait hyper tôt en fait. Il s'est fait en 5e. Du coup, j'étais en école de musique. Et un jour, ma mère tombe... je ne sais plus si c'était sur Internet ou si c'était au conservatoire, justement, qu'il y avait une affiche où il y avait écrit « Cherche garçon manqué pour jouer dans un court-métrage de fin d'études de Fémis ». C'est ma mère qui trouve ça.
Et elle se dit « C'est pour Garance ».
Elle se dit « Bah, je vais le proposer à Garance ». C'était complètement... Je traînais qu'avec des mecs. Enfin, j'étais un garçon manqué, quoi. Et j'aime pas cette expression aujourd'hui, je trouve qu'elle est complètement. Elle devrait plus exister. Mmh. En tout cas, à l'époque, j'étais ce qu'on pouvait dire ça. Quoi.
Mmh.
Et du coup, elle me parle de. Enfin, elle voit cette annonce. C'était justement le film de Julia Ducournau, donc son premier court-métrage qui s'appelle Junior. Et je dis, bon, bah ouais, pourquoi pas.
Alors là, t'as aucune expérience ? T'as jamais pris un cours de théâtre ? T'as même pas fait le club théâtre du.
Non,
de l'école
non.
Ou du collège, non, jamais quoi.
Jamais.
Ok. Mais ça t'attire ?
Non, en fait, c'est. En fait, j'en suis pas effrayée parce que mon père, il est musicien, donc je vais tout le temps voir ses spectacles. Mm-hmm. Et en plus, il est musicien pour le théâtre, il est compositeur. Donc... Et ma mère travaille dans le théâtre, elle travaille dans la production. Donc... Mm-hmm. Depuis que je suis toute petite, je vais en tournée avec eux, je vois des spectacles. Donc je suis pas effrayée. Mais par contre, je me dis. Genre, ok, MDR, je vais y aller, mais enfin, c'est pas pour moi, quoi. Donc, j'y vais. Et là, je rencontre une directrice de casting qui s'appelle Judith Charlier et Julia Ducournau. Et moi, à ce moment-là, j'ai 11 ans. Et je me dis, enfin, je sais pas, j'ai toute une idée préconçue de ce que peut être une réalisatrice. Je l'imaginais blonde, 45 ans, qui fumait des clopes en me regardant. Et là, je tombe sur deux jeunes femmes magnifiques, brunes, donc rien à voir. Et on commence à faire le casting. Et c'était de l'impro, surtout, où on devait créer une sorte de genre d'engueulade d'ado dans la cour de récré où... l'une a dit quelque chose sur l'autre, donc l'autre s'énerve et tout. Et je joue avec Julia. Et du coup, genre, elle commence à me chauffer et à me tailler sur mon physique et tout. Et moi, j'avais jamais joué. Donc je me disais, et puis à ce moment-là, en 11 ans, j'étais mal dans ma peau. Enfin, il y avait tout un truc où en fait, je le prenais trop mal qu'elle me parle comme ça. Et j'étais trop énervée contre elle. Enfin, c'est parti vraiment en live, quoi. Et donc moi, je suis partie du casting hyper énervée en mode, mais c'est qui cette connasse? Et je me souviens que je suis partie donc énervée, ma mère était derrière moi et Judith l'a rattrapée devant la porte et lui a dit bon, je sais pas si ça marchera mais en tout cas faut qu'elle continue. Et finalement il rappelle ma mère, ils me disent ah, on aimerait revoir Garance. Donc j'y retourne, je revois Julia, je suis dégoûtée, je suis en mode putain encore elle. Et on refait une impro. Et ça se passe bien et tout. Je sens que, en fait, je sens qu'il se passe un truc entre nous. Il y a une connexion. Et à la fin du casting, elle me dit bon bah à bientôt. Et je dis mais pardon, mais en fait elle est où la réalisatrice? Je vais la voir un moment. Et là, elle éclate de rire. Elle me dit mais c'est moi. Et je te dis mais non. Et je pense que si j'avais su, ça aurait sûrement changé beaucoup de choses, quoi, parce qu'en fait. Il y avait un truc où j'étais pas stressée, quoi. Je me disais, c'est pas elle la réelle, de toute façon, je m'en fous. Enfin, un truc un peu d'ado frondeuse, quoi. Et du coup, j'ai été prise comme ça sur Junior et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer.
Ça t'a plu?
J'ai adoré. Moi, j'ai trouvé toute la liberté que je retrouvais pas forcément en musique et en même temps. La notion de partition, puisqu'on est quand même au service de quelqu'un, de sa vision, on a un texte qu'il faut quand même réciter, le rendre vivant. Et du coup, ouais, j'ai adoré. Mais je me suis pas dit du tout que j'allais en faire mon métier, quoi. Parce que du coup, quand j'ai fait ça, j'étais en cinquième. Et puis après, le film est allé à Cannes. Et c'était que des coups de chance, quoi, en fait. Je me disais, ah, mais... c'est trop bien, mais c'est une expérience et puis plus tard je ferai autre chose, quoi.
Tu le racontes avec beaucoup de précision, donc c'est un souvenir qui est quand même très marquant et que moi je trouve quand même assez dur. Enfin, tu le racontes avec humour, mais c'est vrai que tu étais quand même une petite fille à ce moment-là. Est-ce que c'est pas finalement le casting le plus difficile que t'aies passé?
Ah non. Ah ouais, non.
T'as eu de très mauvaises expériences de casting?
Non, j'ai jamais eu des très mauvaises expériences, je veux dire, humainement. Mais moi, j'ai... Enfin, et bien sûr, il y a des castings où j'ai ressenti exactement le même truc dont je te parlais en musique, quoi. Tu sais ce qu'il faut faire, mais t'arrives pas à le faire. Et ça, il y a rien de plus frustrant, quoi. Enfin, c'est pas que t'arrives pas à le faire, mais ça ne sort pas comme t'aimerais que ça sorte. T'arrives pas à sortir ce que t'aimerais sortir. Bien sûr, et c'est hyper dur les castings parce que, en fait, t'es là, tu connais pas les gens, et d'un coup, souvent c'est sur des scènes phares, tu vois. Et moi je comprends, si demain je fais un film, j'ai envie de tester mes acteurs sur des scènes qui vont être hyper importantes, tu vois. Mais du coup, genre, t'as, je sais pas, une demi-heure pour sortir un truc où tu sais qu'en tournage, tu vas mettre une journée, voire deux, à faire cette scène, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un exercice qui est hyper dur, quoi, qui est stressant.
Est-ce que t'as envie ou t'as le droit de me dire quel casting t'as foiré que t'aurais vraiment voulu réussir? Un rôle qui t'a échappé ou que t'aurais vraiment voulu avoir?
Bah, en fait, il y a quelques années, il y avait un metteur en scène de théâtre dont je suis fan absolue qui s'appelle Bob Wilson.
Ok.
Et il monte la pièce Le Livre de la Jungle. Et moi, Le Livre de la Jungle, je connais, tu vois, comme tout le monde, quoi. Mais je lis le livre. Et le livre, mais quand je te dis qu'il me bouleverse, mais c'était un truc de fou. Genre, je ne pouvais même pas le terminer tellement je pleurais. Et le moment où... bon, ça va paraître trop bête, mais... où Mowgli, il part de la jungle parce qu'il sent que sa place, elle est plus dans la jungle, elle est plus avec les animaux, il devient ado, enfin... il devient même jeune homme. Donc il retourne dans le village et en même temps, il sent que c'est pas sa place, mais il persiste, il reste. Finalement, il se sent trop mal avec les hommes, donc il retourne dans la forêt Et puis là, il voit que tout le monde a vieilli, que tout est différent, que cette forme d'innocence et de sa vie d'avant, bah, elle n'existe plus, elle n'existera plus. Et donc, mais ça, je sais pas pourquoi, à ce moment-là, ça m'a trop bouleversée. Et j'étais en mode, mais je dois faire cette pièce, quoi. Et donc, il passe les auditions. Je fais une lettre de motivation. Je lui parle un peu de tout ça, de comment je connais son travail depuis que je suis toute petite. Parce que mes parents m'avaient emmené genre, la première fois que je suis allée au théâtre, c'était pour voir Les Femmes de La Fontaine de Bob Wilson à l'Opéra Comique.
D'accord.
J'étais vraiment toute petite. Et donc, ils me répondent qu'ils veulent me voir en audition. Et j'arrive à l'audition. Je vais à l'accueil et je dis « Excusez-moi, l'audition, c'est avec d'autres personnes ou c'est on passe les uns après les autres ?» Elle m'a dit « Non, c'est avec tout le monde. » Et j'ai fait demi-tour.
Oh, c'est pas vrai.
Ouais, impossible. Trop stressée. Si, genre, juste l'idée d'être avec des gens qui veulent aussi le rôle, d'être en compétition bizarre.
Ouais.
Et de... Mais c'était impossible, quoi. Ça, je m'en veux. Parce que je pense qu'aujourd'hui, je sais pas si... J'aurais aimé aller au bout, quoi.
Donc, tu l'as jamais rencontré ?
Eh bah, en fait, si, je l'ai rencontré parce que... Parce que je connaissais la personne qui faisait la musique de ce spectacle. Et donc, je suis allée le voir et il m'a présenté Bob Wilson. Donc, je lui ai quand même serré la main. Mais je lui ai pas raconté ça.
Tu lui as pas raconté
non, mais on devrait travailler un jour. Et je dis, mec, tu savais, genre, ce qui s'est passé. Et voilà.
Alors, je reviens juste sur quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure. Tu as prononcé le mot « chance ». Est-ce que tu trouves que dans ton parcours jusqu'à maintenant, tu as eu de la chance ?
Bah, je pense qu'il y a toujours un facteur de chance quand on est comédien, parce que à moins d'être depuis tout petit, de savoir que tu veux faire ça, d'aller de casting en casting, et à un moment ça marche. Mais pour les gens comme moi qui débarquent à un casting, tombent sur une cinéaste comme Julia Ducournau, qui après a le parcours qu'on connaît, évidemment c'est de la chance. Enfin, j'ai travaillé pour, mais à ce moment-là, non, c'est de la chance.
D'ailleurs, quand tu dis que tu as travaillé pour, quand tu arrêtes la musique, tu t'es formée au jeu, non ?
Bien sûr, ouais, ouais. J'ai fait une école qui s'appelle l'école du jeu pendant 2 ans, qui est une super école. Et bien sûr, je me suis formée parce que je pense que comédien, c'est aussi de la technique et que évidemment on joue avec soi, mais que bah, justement, tout notre bagage... il faut des outils pour pouvoir s'en servir au mieux, quoi. Enfin, en tout cas, moi, à l'école du jeu, j'ai appris à m'en servir.
J'ai lu... On lit partout, quand on s'intéresse à toi, quand on cherche des interviews, on lit partout que tu accordes beaucoup d'importance au corps. Mais je pense que pour les gens qui n'ont jamais fait de théâtre, qui n'ont jamais été comédiens, c'est pas si facile de comprendre ce que ça veut dire. Est-ce que tu voudrais bien expliquer davantage ce que ça veut dire accorder de la place au corps dans le jeu ?
Bien sûr, bah, en fait, moi, je pense que tout passe par le corps. Tu vois, quand quelqu'un va pas bien, tu le vois à sa manière de se tenir, à sa manière, à son visage, à ses traits qui sont plus marqués. Enfin, il y a un truc, le corps, il se transforme toujours par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on ressent. Et moi, ce qui m'intéresse dans le jeu, c'est d'imaginer comment je peux incarner physiquement un personnage, parce que ça m'intéresse plus que me dire « Ah bah là, t'es triste, pense à quand ton chat il est mort et du coup tu seras triste. » C'est plutôt « Ok, genre là, mon personnage est triste, et bah comment je peux montrer que... » Enfin, dans le corps, habiter ça, quoi, incarner ça. Ou « Bah là, je vais jouer une footballeuse, bah je vais m'entraîner pendant 6 mois pour avoir le corps d'une footballeuse. » Enfin, ça m'intéresse. J'adore la transformation, je trouve ça trop intéressant et c'est vrai que c'est un peu ma ligne directrice depuis que je fais ça, quoi. Bah, pendant 6 mois, j'ai fait que du foot, j'ai fait que de la salle, c'était genre mon mode de vie. Donc je me suis mise à avoir le mode de vie d'une sportive de haut niveau, entre guillemets, quoi. Même si, évidemment, j'ai pas réussi à atteindre le niveau de Marinette, mais en tout cas, ouais, c'est sûr que bah, c'est pour ces moments-là que je fais ça, quoi. Après, c'est un contexte spécial, vu que c'est le biopic sur une sportive. J'ai réussi à trouver ces sensations dans d'autres rôles plus quotidiens, parce que justement, c'est mon axe de travail, donc forcément il y a toujours des moments où j'atteins ça, mais ouais, là c'est vrai que c'était hyper intéressant. C'était un rêve, je crois, de pouvoir jouer une sportive, de pouvoir faire des célébrations dans des stades. C'était incroyable, quoi.
Les filles qui jouent avec toi, elles sont footballeuses dans la vie?
Alors, il y a eu beaucoup de footballeuses qui étaient pro ou amateurs. Et il y a eu aussi beaucoup d'amis à moi qui viennent de mon équipe de foot qui s'appelle le Gage FC. Donc, on était en famille et c'était incroyable parce que tu sentais que d'habitude, t'as des figurants qui sont là, ils savent, enfin, pas forcément pourquoi ils sont là, mais là, c'était genre, chaque fille, elle savait pourquoi elles étaient là, quoi. Il y avait un truc un peu presque militant, quoi. Genre, on fait ce film ensemble pour que les choses bougent, pour que les futures joueuses aient le statut de joueuse professionnelle, ce qui est toujours pas le cas en France. Enfin, il y avait un truc, vraiment une énergie entre filles qui était trop belle, quoi.
Caco senza storia, dice lei di lui. Che gli manca la memoria, in fondo ai guanti bui. Ma il suo sguardo è una veranda. Tempo al tempo e lo vedrai, che si addentra nella giungla, non incontrarlo mai. De-de-de, de-de-de, de-de-de-de. Guardato in fondo al gioco, tutto qui, ma sai, sono un vecchio sparring partner e non ho visto mai. Una calma più tigrata, segreta di così. Prendi il primo pullman via, tutto il resto è già poesia. Da-da-da, da-da-da, da-da-da-da. Certi applausi ormai, son dovuti per amore non incontrarlo mai. Stava lì nel suo sorriso a guardar passare i tram. Vecchia pista da elefanti stesa sopra al macadam. Da da da, da da da, da da da.
Bon, Garance, je te vois loucher sur les enveloppes de couleurs depuis un petit moment. On n'a pas dit quand même, mais on est chez toi.
On est chez moi, ouais. On est dans mon petit studio.
Très charmant. Et sur la table basse, donc j'ai balancé toute une pléiade d'enveloppes de différentes couleurs. Et dans chaque enveloppe, il y a des thèmes. Donc tu peux tirer au sort ce que tu veux. Tu peux faire au hasard ou être attiré par une couleur en particulier. C'est toi qui dessines.
Je vais aller. En fait, j'ai envie d'aller ouvrir cette question où il y a un point d'interrogation. Et en même temps, j'ai pas envie, mais bon.
Alors voilà, il y a une seule enveloppe sur la table où il y a.
Ouais.
Enfin, toutes les autres sont des enveloppes de couleur avec rien dessus. Et il y en a une qui est rouge et il y a un point d'interrogation dessus.
C'est vraiment mon.
Et elle l'a repéré tout de suite.
Et ouais. Mais c'est parce que c'est ma couleur préférée aussi, le rouge. Et là. Quelle question aimerais-tu que l'on te pose? Putain, il y a un revers. Quelle question aimerais-tu me poser? Quelle question
Genre une question qu'on te pose jamais, mais que t'aimerais bien qu'on te pose.
Mais moi, j'aime pas trop qu'on me pose des questions. Je sais pas si t'as remarqué. Très timide, donc moins je parle de moi, mieux je me porte. C'est ma grande... c'est vrai que je fais presque pas d'interview en fait. J'en fais jamais parce que je trouve que l'exercice il est vraiment dur quoi. Surtout quand on est des gens introvertis comme moi. Donc rien, aucune question. C'est ça ma question rêvée.
Ça marche.
Par contre, moi je peux te poser une question.
Bah si tu veux.
Comment ça t'est venu cette idée de faire ce podcast?
Je peux te dire exactement où j'étais. J'étais dans le bus, il pleuvait. Je pensais, en fait, moi j'adore les acteurs et les actrices.
Pourquoi?
Parce que vous rendez le monde plus beau. Et je me disais, j'aimerais en connaître plein. J'aimerais passer plein de temps avec eux, je voudrais les connaître. Je voudrais manger des macarons, boire du thé avec ces gens. Et moi, je lis des scénarios dans la vie. Et donc, je ne suis en contact avec personne, en tout cas jamais avec les acteurs. Et je me suis dit, mais... ceux qui m'intéressent le plus, ce sont surtout les acteurs qui sont en train de changer un peu le cinéma, enfin qui sont vraiment les acteurs d'aujourd'hui, du moment. Et je remarque que souvent, on ne les reçoit que pour faire la promotion d'un film, enfin ce qui est normal, hein, mais je voudrais les connaître davantage au-delà de la contrainte commerciale. Et voilà, c'est comme ça que c'est arrivé et que j'ai eu envie de faire cette émission.
Trop sympa.
C'est sympa de m'avoir posé cette question, dis donc.
Bah écoute... C'est tout naturel.
Tu veux tirer une autre carte?
Allez, celle-là, là, elle me... J'ai l'impression de tirer les cartes du tarot, c'est horrible. Mensonge.
Est-ce que tu pardonnes le mensonge? Est-ce que ça t'arrive d'utiliser le mensonge?
Je suis pas quelqu'un qui ment beaucoup. Hein. Quand j'étais petite, quand je mentais... Ma mère, elle me disait tout le temps, ton nez s'allonge. Et du coup, quand j'allais la voir, en sachant que j'allais mentir, je me tenais le nez, ce qui était complètement débile. Et donc, j'ai gardé un truc en fait, quand je mens, je deviens toute rouge. Enfin, c'est tellement cramé. Donc, je mens pas, en fait. Je mens vraiment pas. Est-ce que je pardonne le mensonge? Ça dépend en quelle sorte de mensonge. Je pense qu'on n'est pas obligé de tout se dire dans la vie. Que parfois, trop d'honnêteté, ça dessert et qu'il faut protéger les gens qu'on aime. Et par contre, on devrait savoir qu'on peut tout dire, mais pas être obligé de le faire.
Tu veux tirer une autre?
Allez, celle-là aussi, elle m'appelle. Célébrité. Est-ce que j'ai déjà rêvé de célébrité? Non, j'ai rêvé de liberté, de pouvoir choisir les projets que je voulais, de pouvoir vivre où je voulais, de pouvoir voyager, de pouvoir avoir ce luxe, quoi. Mais j'ai jamais rêvé de célébrité, qu'on connaisse ma vie, qu'on m'arrête dans la rue, que ça, c'est vraiment... ça fait partie de... ça fait partie entre guillemets du jeu, mais c'était vraiment pas un désir, quoi. J'ai participé à des œuvres qui ont fait leur place dans un certain milieu de l'art. Je pense qu'on connaît mon travail. Mais après, non, je pense pas être célèbre, je pense pas alimenter ça. Voilà, quoi. Enfance! Ça y est, on va aller dans le deep. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte?
Est-ce que t'as eu une enfance heureuse?
J'ai eu une enfance merveilleuse. J'ai adoré mon enfance. J'ai grandi dans une famille hyper aimante, hyper instruite, qui ont toujours voulu partager avec nous justement leur goût pour la culture, pour le voyage, pour les gens, pour j'ai que des bons souvenirs en fait de l'enfance.
C'était une enfance parisienne?
C'était une enfance parisienne, ouais. Après, mes parents avaient la chance d'avoir une maison à la montagne, donc j'ai passé pratiquement toutes mes vacances à la montagne. On avait toujours des amis dans le sud, donc puis ils nous ont toujours emmenés en voyage, donc c'était trop bien, quoi. Et puis j'ai grandi dans le 20e, qui est un quartier que j'adore, que j'arrive pas à quitter. Un quartier où tout le monde se côtoie, quoi, qui est trop mélangé, et c'est trop bien.
T'as parlé un petit peu tout à l'heure de ton rapport à l'école. T'as dit que t'étais insolente, t'as dit que t'étais dissipée. Mais à la maison, t'étais quel enfant?
J'ai longtemps été en conflit parce que j'avais envie de... J'en faisais qu'à ma tête, quoi. J'avais envie de faire ce que je voulais. Je m'ennuyais à l'école. J'avais envie de vivre des choses de... Enfin, je trouvais plus de satisfaction dans le fait de me nourrir de faire des conneries avec mes potes, de rigoler avec mes potes, d'aller au cinéma avec mes potes que de travailler chez moi, quoi. C'était impossible. Mais pourtant, quand j'ai été en... Donc ça a été vraiment très très compliqué. Genre moi, depuis le CE1, les gens ils disent à mes parents qu'il faut que je redouble. Mes parents n'ont jamais voulu. Et ensuite, quand j'étais au lycée, j'ai finalement redoublé, mais par amour. Parce que... Voilà, je lâche du gros scoop. Non, mais en gros, j'étais genre avec mon ex et qui avait un an de moins que moi. Et du coup, j'étais une classe au-dessus. Et ça faisait tellement longtemps qu'on me disait qu'il fallait que je redouble, j'avais tellement des mauvaises notes, j'étais tellement pas concentrée, que je me suis dit, mais en fait, tout ce qui m'intéresse, c'est d'être avec la personne que j'aime. Donc si je redouble, on sera dans la même classe. Et puis, personne me dira pourquoi tu veux redoubler, vu que tout le monde me dit redouble. Donc j'ai redoublé comme ça, ma mère elle m'a cramé direct, elle était en mode tu fais n'importe quoi Garance. Et mon père il était en mode t'as raison, redouble. Et puis c'était l'année où je tournais grave, donc j'étais en mode de toute façon je vais être tellement prise par le tournage. Il faut que je redouble parce qu'il faut que n'importe quoi. Papa, maman, si vous m'entendez, je vous ai bien vu. Et du coup j'ai redoublé. Je suis restée 4 ans avec cette personne.
Ah bon, quand même, ouais, c'était comme... Ouais, ouais.
C'était un beau
pari, ouais, ouais.
Et j'ai eu mon bac avec 15 de mention. Mention bien.
Ah, mais oh,
en fait, c'était la meilleure décision de ma vie. Voilà, c'est ça la morale. Trop bien.
J'ai trop aimé cette histoire. Est-ce que tu veux faire une pause?
Non, ça y est, là, je suis de...
T'es lancée,
là. Je vais toutes les faire, en fait, ces questions.
Mais franchement, vas-y, hein. Elles sont vraiment là pour ça.
Elles sont vraiment là pour ça. Ok, allez, hop.
Bon, ça fait deux fois que tu choisis le parme, là.
Le parme, le violet, mais ouais. Parce que, en fait, ça me rappelle la lavande, donc ça me rappelle chez mes parents. Et donc, c'est art.
Art.
Au pluriel.
Ouais.
Dis-moi.
Je sais pas, par exemple, on a ouvert un peu la porte tout à l'heure sur le fait que tu faisais de la scène aussi.
Ouais. J'en ai fait qu'une fois, quoi.
Bon, alors, tu peux nous parler de ça, par exemple, tu vois, de ton rapport au théâtre, par exemple. Parce que, je sais pas, il y a peut-être plein de gens, je sais pas trop, mais il y a peut-être plein de gens qui pensent que quand on est actrice de cinéma, on peut être facilement actrice de théâtre. Bon, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça?
Je pense que c'est... En tout cas, pour moi, c'est beaucoup plus dur d'être sur scène que d'être devant une caméra. Parce que je trouve qu'il y a un rapport, justement, au corps qui est entier et... Quand t'es sur scène, tu peux pas mentir, quoi. Si t'es pas incarné, si t'es pas dans ton corps, on ne voit que ça, en fait. Et souvent, j'ai vu des acteurs qui étaient très bons au cinéma et qui étaient désincarnés sur scène, quoi. Et du coup, ils ont beau jouer juste, ils ne te transcendent pas, quoi. Je pense que un acteur de théâtre, si je vais dans cette logique-là, bah, au théâtre, souvent, on rend des choses très intimes un peu plus grandes, quoi, puisqu'il y a beaucoup de public. Et du coup, au cinéma, il faut rendre les choses intimes, intimes, tu vois. Donc, il faut réduire un peu un niveau de jeu. Et donc, je pense que des acteurs qui sont trop habitués au théâtre et qui jouent au cinéma, en tout cas, ça peut être dangereux pour eux, cette notion d'intimité, tu vois. Enfin, de régulateur d'énergie ou de jeu ou de phrasé même, tu vois, genre de diction. Voilà.
Comment tu l'as vécu, là, ton expérience sur scène ?
Je l'ai vécu, c'était vertigineux. C'était vraiment... Je pensais jamais que j'aurais pu monter sur scène. Moi, j'ai fait une école de théâtre, mais même, je me suis toujours arrangée pour jamais participer au spectacle de fin d'année parce que j'avais trop peur. Dès que je devais faire genre des mini-scènes devant les gens de ma classe, mais c'était... genre une torture, et je me disais mais pourquoi je m'en fiche, ça, genre ça me rend pas heureuse. Et en même temps, quand t'es sur scène, bah c'est incroyable, quoi. Et du coup, ouais, j'ai un rapport à la timidité et au fait d'être devant des gens qui est hyper qui peut paraître paradoxal, parce que finalement mon métier, c'est quand même de jouer devant des gens, même quand on est au cinéma. Mais il y a ce truc de, quand t'es sur un tournage, en fait, chacun est focus sur sa lumière, le son, un petit détail dans le cadre. Où, finalement, il y a très peu de personnes qui se concentrent sur ce que t'es en train de faire, à part le réel ou la réelle. Et du coup, bah, j'avais hyper peur de jouer au théâtre. Et en même temps, j'ai ressenti tellement cette adrénaline de... bah, du plaisir, quoi. En fait, tu dépasses ta peur et aussi le goût des mots. Enfin, moi, c'est un livre sorcière, quand même, que je trouve hyper important, tu vois. Donc, pour moi, je pouvais pas dire non à cette proposition. Il fallait que je porte.
On est venu te chercher. On te l'a proposé.
On m'a proposé, ouais. C'est Élodie Demey, qui est une directrice de casting que je connais assez bien, qui un jour m'a appelé pour me proposer de faire ça. Et même si j'avais trop peur, j'étais obligée de dire oui, quoi. Et je regrette absolument pas. Je pense que justement, ça m'a ouvert les portes à me dire, en fait, si t'es capable de le faire, et en plus, t'es même capable de prendre du plaisir. Donc, fonce.
Il y a d'autres arts qui t'attirent ou auxquels tu t'es essayé ? Je sais pas, je dis n'importe quoi, la photographie, la peinture, je sais pas.
Je pense comme beaucoup de monde. Après, moi, j'ai toujours dessiné quand j'étais petite. Enfin, j'adore le dessin, la bande dessinée, j'adore la photographie.
Tu sais dessiner ?
Je sais dessiner.
Alors ça, c'est pas comme tout le monde, hein, Garant. Je t'informe que moi, j'en suis restée au stade du bonhomme, tu sais,
avec
des ronds, des traits, tout ça. Ouais, je ne sais pas faire autre chose, voilà.
Je sais dessiner. Après, je ne prétends à rien, hein, enfin, par rapport aux gens qui font... Je pourrais jamais en faire mon métier, par exemple, mais j'aime m'exprimer par ça. Et voilà, après, la musique, c'est une partie hyper importante dans ma vie. Il y a un truc où je suis hyper, hyper sensible à ça. Oui, voilà. Allez, next.
Forever and ever. Oh, we can be heroes.
Tiens. Argenté. Colère.
Alors, plein de questions autour de la colère.
Ah, trop bien, vas-y.
Bah, déjà, est-ce que tu te mets facilement en colère? Qu'est-ce qui te met en colère? Est-ce que tu as de l'indulgence pour les gens qui se mettent en colère? Parce que c'est quand même très critiqué dans nos sociétés, la colère. T'as remarqué? Surtout ouais. Quand t'es une femme.
Bien sûr. Bah, pour moi, la colère, c'est une énergie du mouvement, quoi. Enfin, la colère, ça... Ouais, j'ai de l'indulgence pour les gens qui se mettent en colère. Après, il faut travailler sur soi, hein, c'est comme tout. Les gens qui sont trop en colère tout le temps, ça rend tout stérile. Mais moi, par exemple, je me mets facilement en colère. Par contre, je suis pas du tout rancunière, quoi. C'est un truc qui... Ça circule, après, ça passe, quoi. Genre, un truc qui me saoule, je le dis. À partir du moment où on en a discuté, même si on n'est pas d'accord, c'est bon, c'est fini.
En amitié comme en amour?
Ouais. Mais ce qui me met en colère, c'est, par exemple, l'injustice. La passivité. Genre, ça me met vachement en colère. Les gens qui sont passifs dans un truc, qui se mouillent pas forcément, l'inaction quoi, ça peut me mettre en colère. Allez, une petite question bleue. C'est vrai que je suis un peu dans le même thème des couleurs, hein. Politique et bah voilà.
Ah bah voilà, je.
Tiens, tu en rêvais,
ouais. Ouais, un peu, j'avoue. Ah, je suis contente. Est-ce que les questions politiques, ça peut te mettre en colère justement?
Les questions politiques. Mmh. Oh là là, ouais c'est. Bah bien sûr. Après, c'est des sujets délicats. Hein. Enfin, c'est toujours très touchy, quoi, de la politique. Moi, en fait, j'ai un rapport politique intime qui est assez fort, même si, je suis pas la plus informée, je suis pas la plus militante. Mais par contre, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. J'ai l'impression de parler tout le temps de mes parents, c'est insupportable, mais j'ai été élevée dans une famille très politisée. Et après, par contre, la politique en tant qu'actrice, ça me dérange un peu. Parce que justement, j'ai pas forcément envie que. J'ai envie que ma voix serve à des causes, si je peux porter soit des idées, soit des combats qui me sont nécessaires, viscérales, évidemment, il faut le faire. Mais par contre, j'ai un peu un problème avec le fait qu'on nous demande toujours notre avis, comme si notre parole... j'ai pas la prétention d'avoir réponse à tout, et des fois, ça peut me mettre dans des situations un peu malaisantes, parce que je me sens pas assez informée pour pouvoir défendre quelque chose, et ça me dessert finalement, tu vois. Donc, je pense que si... je donne ma parole et je suis vraiment impliquée et je sais de quoi je parle, quoi.
Est-ce que si t'avais pas été actrice, si t'avais été une femme politique, il y a des combats que t'aurais voulu mener, des combats passés que t'aurais voulu mener, que tu trouves badass, quoi. Tu te dis waouh, quand même, fallait le faire ça.
Ouais, j'aurais trop aimé être la pote de Delphine Seyrig, en mode faire ses petites émissions avec elle, ses actions. Tu l'as vu le docu Insoumuse?
Non.
Oh là là, mais il faut trop que tu le vois. C'est sur Carole. Attends, j'ai peur de mal dire son nom. Rastopoulos. Et Delphine Seyrig. Et c'est extraordinaire. Genre, c'est incroyable. Ça, et après le combat, je pense que. Ouais, le combat contre le racisme, j'aurais été bien dedans aussi, à mon avis. Aujourd'hui, ce qui me touche, les questions LGBT, bien sûr, j'étais au manif hein, pour le mariage pour tous. Enfin, j'étais au manif côté mariage pour tous, pas contre le mariage pour tous.
Le gros malentendu.
Ouais, pas chaud. Ouais, ouais, non, j'étais pas dans ces manifs-là. Quoi. Mais voilà, ouais, je me serais impliquée, bien sûr.
Tu te surveilles beaucoup? Quand t'es dans un espace public ou que t'es dans un festival, où tu fais très attention à ce qu'on pourrait capter de toi, entendre?
Non, enfin pas forcément. Non, après forcément, ton attention, elle est pas la même que quand j'étais au lycée et que tu vois, j'avais pas fait de film et que je pouvais me promener partout sans me méfier de qui que ce soit. Mais après, non, je ne suis pas quelqu'un de méfiante. Ou... Mais par contre, forcément, tu fais attention à... Genre... Je me souviens d'une fois où j'étais genre à Gare de Lyon et j'étais avec mon ex et on s'embrouillait. Et je lui avais dit, mais putain... En fait, il y avait des gens qui étaient passés à côté et qui avaient dit « Ah, c'est Garance Marilly ». Et genre, je m'étais trop énervée. J'étais en mode « Mais on peut pas s'embrouiller dans une gare, quoi. J'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie que là, on me dise « Ah, on a vu Garance Marilly s'embrouiller. » Tu vois. Donc, mais c'est des trucs comme ça de la vie quotidienne qui te rattrapent. Mais en même temps, c'est tellement pas grave. On s'en fout, tu vois. Mais c'est juste pour te donner un exemple. Tu vois, genre... En vrai, ça m'arrive aussi de croiser des potes dans la rue qui me voient pas, ou des gens que je connais, et j'accède à leur intimité comme ils s'en seraient pas doutés, tu vois, genre comme n'importe qui, en fait. Mais c'est vrai que ça fait partie du truc, quoi.
Moi, j'ai une question. C'est un truc, pour le coup, dont j'ai envie de te parler depuis longtemps. C'est sur la cérémonie des Césars. Tu vois, c'est même pas un truc que t'as dit. C'est juste ton visage qui a été filmé. Tu vois de quoi je parle?
Ouais.
Qui a déclenché un embryon de polémique.
Ah bah, je me suis bien fait bolos hein, sur Twitter et tout.
C'est fou.
C'était relou, ouais. C'est très très relou. J'étais jeune, j'avais 17 ans. Et c'était pas cool, ouais. C'était vraiment pas cool parce que... En fait, ce qui s'est passé... Mais tu vois, j'ai même pas envie de me justifier, en fait. Mais juste cette image... en fait, je regarde l'écran qui est au-dessus de ma tête. Et je lève pas les yeux au ciel. Après, par contre, je fais ce nom de la tête parce que... Je suis pas forcément touchée par la blague de Blanche Gardin, contre qui j'ai rien d'ailleurs, mais en fait, c'était l'année du MeToo, et c'était une salle qui était, enfin, comme les Césars, quoi, remplie un peu d'hommes, et que tout le monde se marre à cette blague, ça m'a mis un peu mal à l'aise, quoi, mais c'était rien de... J'étais pas scandalisée, ou j'ai pas voulu déclencher ça, quoi. C'est juste que j'ai pas rigolé, mais en même temps... C'était juste avant l'annonce du meilleur espoir.
C'est incroyable qu'il y ait à ce point un défaut d'empathie.
Tu sais, les gens, ils sont tellement bêtes parfois. Genre, ils tweetaient, mais de toute façon, elle se sent visée, elle a dû coucher.
Mais quelle horreur.
Et je t'en disais, oui, t'as raison, j'ai couché avec Julia Ducournau, c'est bien connu. N'importe quoi, tu vois. Et ouais, du coup, ça m'a... En fait, c'est comme... C'est dès qu'on peut taper sur les femmes, de toute façon, Twitter, c'est assez exceptionnel pour ça. Ah bah, une qui rigole pas, elle est coincée et tout. Mais ça à la fois, genre, je m'en fiche, mais c'était plus l'acharnement qui raconte quelque chose, en fait. C'est pas ce que les gens disaient dans leurs tweets, c'était plutôt le phénomène de masse, les médias qui reprennent. J'étais en mode, mais il n'y a pas plus intéressant.
Ça t'a touché à l'époque?
Ouais, ça m'a touchée parce que je trouvais ça injuste de, tu sais, d'on te coupe la parole. Et puis en même temps, j'allais pas m'exprimer là-dessus parce que je trouvais ça tellement inintéressant et
c'était un non-sujet en fait, il y avait pas de sujet, quoi. Ouais.
Que, en fait, enfin moi, je suis quelqu'un de hyper pudique en fait, donc qu'on expose comme ça une de mes réactions et qu'on genre la commente, qu'on
en tire des conclusions surtout.
À
un moment, comme tu le disais, qui était crucial quand même dans la carrière d'une jeune comédienne, vous deviez toutes être complètement stressée, une attente qui durait déjà depuis des semaines. C'est fou c'est quoi? C'est une image qui dure une seconde et demie, quoi.
Ouais, c'est de la malveillance, mais après, en même temps, tu vois, ça m'a forgé pour la suite, hein.
Qu'est-ce que t'en as gardé de ça? Conclusion, toi, t'en as tiré du coup?
Bah,
pour te prémunir de ça.
Mettre ces réactions à distance, de pas prendre les choses personnellement. Moi, je suis alignée avec qui je suis, avec mes valeurs, avec. Enfin, tu vois, je suis droite dans mes bottes, donc en fait, il faut pas que j'accorde de l'importance à des commentaires Twitter, quoi.
Et en dehors de cette mauvaise anecdote, les Césars, t'avais kiffé?
Bah, les Césars, j'avais kiffé. C'était trop beau d'être là avec Julia. Enfin, c'était un moment, c'était une consécration de famille, tu vois, qui était magnifique. Et puis en plus, pour un film de genre, il y avait tout un truc autour du film qui a fait que c'était une super expérience. Après, c'est aussi c'est un sacré monde et c'est une sacrée aventure, quoi, les Césars, parce que d'un coup, t'as l'impression que ça prend des proportions immenses. C'est un bon exercice pour l'ego, quoi. Mais tu vois, moi, j'allais au César, et puis le soir, je rentrais, et je devais débarrasser de la vaisselle chez mes parents. Donc, en fait, il y a un truc où tu peux décoller, mais tu peux aussi très vite remettre tes pieds sur terre et être en mode, c'est cool, mais c'est pas la vraie vie.
Toi, tu crois que tu pourrais prendre la grosse tête? Ou il y a trop de gens autour de toi qui t'aiment pour te...
Ouais, fort. Il y a trop de gens. J'ai de la chance d'être quand même hyper bien entourée par des gens qui savent d'où je viens et qui... Enfin, en fait, je traîne qu'avec des gens qui... On a la valeur du travail, quoi. Genre, tu bosses et tu réussiras, mais l'humilité, c'est trop important pour bien travailler, en fait. C'est trop un outil qui aide pour avancer, je trouve.
Cette émission s'appelle Le Meilleur Espoir. C'est pas pour rien, hein. C'est évidemment un énorme clin d'œil à cette cérémonie que je ne loupe jamais. Non, mais autour de moi, les gens ne comprennent pas. Je dis, ah non, ce soir-là, je ne peux pas sortir. C'est un vendredi, fin février, je regarde les Césars. Et les gens ne comprennent pas du tout ce que je fais. Ah non, mais pour moi, c'est l'événement. Je connais tout, je sais. Je suis le répertoire. Ne le savent pas, à l'Académie. Si vous m'entendez, l'Académie, je suis votre mémoire. Sachez-le.
Les archives, c'est vrai. Mais moi, c'est vrai que c'était grave un moment justement de rassemblement familial. Tu vois, on ratait pas, mais comme on ratait pas les Victoires de la musique.
Question hyper importante.
Mm-hmm. Et mon meilleur espoir.
Mais bien sûr.
Alors, mon meilleur espoir, ce serait Julie Ledru, qui a joué dans Rodéo de Lola Kivoru, que j'ai trouvé exceptionnel.
C'est enregistré.
T'as enregistré?
Oh, ouais.
Trop cool.
Merci, Garance.
Drop the roof and let the smoke clear. I made it. Drop the roof and let the smoke clear. I got diamonds doing tootsie slides in both ears. Dice rolling on the Las Vegas strip tonight. Slip that on and we might miss the fight. Fuck or not, I keep the guala in my shorty bag. You know she one of mine when she tattooed that ass. I'm a lover boy, she love the toys. Keep it coming, you a rider. This that roll myself a J and count my figure shit. This that stepping out, I feel like I'm that nigga shit. I drop 30 on this room, we ain't gon' sleep for shit. If I catch you nodding off, then it's gon' be some shit. Well, you can do what you wanna, live how you wanna, spin what you wanna, be who you wanna be. A young stunner till I die. You can do what you wanna, live how you wanna, spin what you wanna, be who you wanna be. I'm stunned till I die. Fuck it, I just run it up before I go. Would you tell the world my secrets if I let you close? M.I.A. Missing in action. These days no kumbaya. Niggas be blasting. Living in the midst of this shit might drive you mad. Feeling pretty mixed up, but this life shit ain't all bad. Bloody blood and murder, there ain't no second chances.
Shit crazy.
That's fuck. Just do what you wanna, live how you wanna,